Format 3 qui vous propose d'assister à une conférence ce soir à Delémont. Conférence avec Olivier Turcher, docteur en sciences techniques de l'EPFL et conseiller en énergie. Le titre de cette conférence, les défis de l'énergie.
Alors on le sait, hein, nous sommes tous énergivores, tous utilisateurs plus ou moins conscients de cette surconsommation. Nous sommes donc tous concernés.
Olivier Turcher, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous nous proposez donc ce soir une conférence dont le titre est, je le rappelle, « Les défis de l'énergie ». Mais on a l'impression que nos efforts sont finalement des grains de poussière, face à l'énergie déployée par le monde de l'industrie.
Non, le monde de l'industrie ne consomme pas plus que le citoyen. Le monde de l'industrie, il a aussi d'autres composantes qui fait qu'il ne peut pas forcément toujours économiser l'énergie. Je vous donne un exemple tout bête. Imaginez un processus dans lequel vous voulez récupérer l'énergie et qui dépend d'un deuxième processus à côté. Vous voulez lier les deux en même temps. Ça veut dire que s'il y en a un des deux qui tombe en panne, vous avez l'autre qui va aussi tomber en panne. Donc le défi au niveau de l'industrie, il est quand même un peu différent. Ensuite, on a quand même une donnée économique qui a changé chez nous, c'est que le monde industriel a beaucoup exporté ce qu'il fabrique, ce qui fait que la quantité d'énergie qu'on consomme en termes d'industrie dans ce pays est en train de se réduire. Ça ne veut pas dire que la quantité globale est réduite, mais en tout cas, elle est réduite au niveau suisse.
Alors, dans la conférence que vous allez donner ce soir, vous commencez par une analyse des flux d'énergie dans notre pays et le constat de la faible part renouvelable actuelle. Ça veut dire qu'on est un mauvais élève ?
Alors, d'abord, l'analyse des flux, c'est simplement pour essayer de comprendre où est-ce qu'on consomme de l'énergie. Ensuite, en termes d'énergie renouvelable, la Suisse n'est pas un mauvais élève, mais c'est un élève qui stagne à l'heure actuelle. On a fait un énorme effort dans les années 60-70 avec tout ce qui est hydroélectrique, et c'est ce qui compose à peu près 40% de notre électricité. Depuis, on fait un petit peu de photovoltaïque, on fait un petit peu de récupération de déchets. Quand on regarde au niveau du pays, ça représente au fond pas grand-chose. Donc on a quand même une quantité importante de renouvelables, mais il y a encore un gros effort à faire, et puis il faudrait empoigner vraiment le taureau par les cornes.
Est-ce qu'il y a des pays sur lesquels on peut prendre exemple qui ont des situations peut-être comparables à la situation qu'on connaît en Suisse, et puis qui, eux, ont réussi à faire plus d'efforts et à consacrer une plus grande part de renouvelables dans l'énergie?
La Norvège a fait un effort conséquent. En détail, c'est très difficile de comparer les situations. On a de la chance, nous, d'avoir des montagnes. D'autres pays n'en ont pas, donc on ne peut pas tous faire de l'hydroélectrique. Hein. Je veux dire, la Hollande, ils auront de la peine à monter des barrages à 2000 mètres d'altitude. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a. Oui, la Norvège est un merveilleux exemple parce qu'ils ont dans le sous-sol énormément d'énergie fossile. Ils ont décidé de limiter clairement la production pour laisser du renouvelable. Au fond, on pourrait très bien faire la même chose.
Alors, Olivier de Surcher, est-ce que nous consommons plus que ce que la Terre peut fournir, comme on le voit souvent, notamment sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, on a souvent ces images de, attention, on consomme plus que ce que la Terre nous donne. Est-ce qu'on est, selon vous, déjà sur la réserve ?
Le problème, c'est un problème de frontières. Ça dépend de quoi vous parlez. Quand vous dites, est-ce qu'on consomme plus que ce que la Terre nous donne ? Non, on ne consomme pas plus. Le Soleil nous en donne beaucoup plus que ce dont on a besoin. Si on regarde ce qu'on consomme, en fait, directement comme type d'énergie, c'est des énergies principalement fossiles, donc c'est du gaz, c'est du mazout, ou du fissile, de l'uranium, et là, les réserves sont clairement limitées. Ou alors, on peut dire que le pétrole est renouvelable si on a 65 millions d'années de patience. Mais comme on le consomme là en 200 ans, à mon avis, on ne va pas le considérer comme renouvelable. Donc la quantité d'énergie qu'on a à disposition, oui, elle est suffisante. Celle qu'on utilise, elle n'est pas suffisante. Nous devons faire une mutation, et si nous ne la faisons pas, nous courons à la catastrophe.
Alors on est 20% à consommer 80% des ressources de cette terre. On doit faire une rééducation, aussi bien nous en tant que citoyens que les industriels et les politiques. Tout le monde doit s'y mettre.
À mon avis, oui, mais je trouve que c'est un exemple qui est assez frappant parce que ça nous renvoie à notre sacro-sainte démocratie. On aime bien que la majorité ait raison. Et puis là, ben, on se rend compte que si on est 20% sur Terre à consommer les 80% des ressources, c'est que nous sommes une minorité à le faire.
Et qu'il y a un déséquilibre ?
Bien sûr qu'il y a un déséquilibre. Bien sûr. C'est aussi intéressant d'entendre des gens qui craignent l'arrivée des Chinois ou de l'Inde qui pourraient un jour être des consommateurs comme nous, parce que mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de ressources, mais il ne faut pas oublier que c'est nous qui consommons trop, ce n'est pas eux qui consomment trop pour l'instant. C'est notre problème, ce n'est pas le leur.
l'énergie renouvelable. Certains y voient un frein au développement de l'économie, par exemple. Selon vous, c'est se tromper de combat ?
Oui, c'est se tromper de combat dans la mesure où la donne elle est extrêmement large. On peut pas. Et malheureusement, le cerveau humain il est ainsi fait qu'il se préoccupe que de ce qu'il voit devant lui. Je veux dire, moi je suis parti ce matin sans parapluie parce que je pars du principe qu'il va pas pleuvoir aujourd'hui. Et puis le jour où il pleut, on vend plein de parapluies. Donc voilà, on se soucie de ce qui nous arrive au moment où ça arrive. Maintenant, est-ce que c'est un frein à l'évolution ? Je vais vous dire, j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais imaginez un saut en parachute, et puis que vous êtes deux à descendre, et puis que ça s'engage un dialogue où il y en a un des deux qui dit, mais écoute, moi je vais sortir en parachute, puis l'autre dit, non mais attends, ça va être un frein à notre vitesse de descente. Quoi.
Vous dites que l'énergie ne coûte presque rien, pourtant on la paye cher.
Nous allons le payer cher, dans la mesure où, oui, le prix de l'énergie ne coûte rien. Je veux dire, vous allez chercher un litre d'essence à la station, il vous coûte quoi, 1,50 €? Sur ce 1,50 €, il y a déjà plein de taxes dessus. Mais au fond, avec ce litre d'essence, vous avez assez d'énergie à disposition pour soulever une tonne du lac de Bienne jusqu'au sommet de Chasseral. Alors, trouvez-moi un moyen de payer quelqu'un avec 1,50 €, même avec des taxes, pour aller porter une tonne de matériel depuis le niveau du lac de Bienne jusqu'au sommet du Chasseral. Et là, vous aurez une idée de ce que le fait que ça ne coûte rien, et puis le fait qu'on va le coûter, qu'on va le payer cher, c'est à quelque part tous les dégâts qu'on va engendrer sur la nature qui, d'une manière ou d'une autre, seront à payer. Lorsque vous avez un glissement de terrain à cause d'un problème de permafrost ou que ça commence à fondre, il faut bien des pelleteuses et des gens qui vont travailler pour nettoyer l'endroit. Donc on va le payer, mais de manière indirecte.
Jamais 203. Format A3.
Et nous sommes ce matin en compagnie d'Olivier Turcher, docteur en sciences techniques de l'EPFL et conseiller en énergie.
Oui, alors Olivier Turcher, nous rappelons que vous donnez une conférence ce soir dans ce domaine. Elle s'appelle « Les défis de l'énergie ». Alors, venons-en à quelques exemples concrets maintenant. Après la mutation des ampoules économiques, est-ce que nous allons vers une bonne solution ?
La mutation des ampoules économiques est un joli exemple de ce qu'on a fait qui sert à pas grand-chose.
Super.
Écoutez, la lumière, c'est un exemple frappant parce qu'il nous dérange. Quand on laisse une pièce allumée, ça nous dérange. Or, en fait, l'être humain n'a aucune perception de l'énergie qu'il met en jeu lorsqu'il fait une action. Et la lumière, qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé par faire l'heure d'été. C'est pour ça qu'on a créé ça. C'était pour faire des économies d'énergie sur la lumière. On a fait la révolution des ampoules. Et puis, si vous regardez un graphe des flux d'énergie dans notre pays, vous rendez compte que la lumière, ça représente que 2% de la consommation énergétique. La meilleure preuve, c'est qu'à Noël, on est tous à mettre des petits sapins de Noël, des lumières dans les rues. On fait ça en Suisse, en Europe, partout dans le monde. On n'a jamais eu un problème de fourniture d'énergie. Donc, c'est une révolution qui est bien, parce que fondamentalement, on limite la consommation d'énergie, mais on y a mis un effort conséquent, avec plein de gens qui maintenant sont convaincus que c'est bien, on a fait tout ce qu'on pouvait, alors qu'en fait, on a concerné que 2% du problème, il y a encore 98% à réfléchir.
On a mis trop d'énergie pour rien, pour le coup.
À mon avis, oui.
Alors du coup, cette énergie qu'on va engager pour économiser l'énergie, c'est quoi les combats ? C'est quoi les comportements qu'on peut adopter tous pour avoir un réel impact sur la consommation ?
Les comportements qu'on peut adopter. D'abord, c'est être au courant de ce qu'on fait, et on vit dans une société dans laquelle on ne demande pas à tout le monde d'être intéressé à l'énergie, et puis c'est tout à fait normal. Je veux dire, on a tous notre dada, on a tous notre cheval de combat, et malheureusement, il faut une bonne éducation pour comprendre ce que c'est. Alors maintenant, vous voulez me demander, de manière brutale, je vais vous dire, réfléchissez à ce qu'est le bonheur. Et puis vous verrez que le bonheur, il n'est pas dans l'avoir, il est dans l'être. Essayez de réfléchir à un moment dans votre vie qui a été un moment extraordinaire. Et réfléchissez si ce moment était lié à une sensation émotionnelle ou est-ce que c'était lié à de l'avoir. C'est fondamental comme question. Moi, j'ai des excellents souvenirs d'éclats de rire avec mes gamins. Mais je dois vous avouer que même si j'ai une fois fait, un super tour en avion en allant me poser sur un glacier, c'est pas fondamental dans ma vie.
Vous parlez d'éducation, justement. Ça doit passer par l'école. On doit recommencer par ça.
Ça serait super, mais c'est un long travail. Je pense qu'il y a une bonne sensibilisation qui peut se faire dans les écoles. J'étais dernièrement à Zurich avec des enfants de 12 à 14 ans. Je pense que c'est le bon moment pour essayer de les formater, parce qu'une fois qu'on a passé l'adolescence, on rentre dans son confort, on rentre dans une certaine manière de voir la vie, et changer ses habitudes devient difficile. Et de faire au niveau de l'enfance, à mon avis, c'est très intéressant. La grosse difficulté, c'est qu'apprendre ce qu'est l'énergie, c'est autre chose que simplement dire « fais pas ci, fais pas ça », c'est comprendre les ordres de grandeur, c'est comprendre des enjeux, et ça, c'est des années de travail. Alors jusqu'à ce que les écoles comprennent que peut-être qu'en limitant certains cours, laisser de la place à la formation sur l'énergie, c'est un long travail.
Formation sur l'énergie et cours de philosophie en même temps ?
Oui, alors oui, clairement. Clairement, c'est une science qui est fantastique de ce côté-là, c'est que chaque équation que vous posez est celle qui engendre le plus de réflexions philosophiques derrière une équation posée. En mathématiques, en physique, c'est un cas très rare.
Alors, Olivier de Surchère, il y a quelque chose qui ressort maintenant beaucoup, on en a beaucoup parlé, ce sont les voitures et les vélos électriques notamment. Est-ce que c'est une solution qui est viable ?
J'ai dernièrement un ami qui m'a dit, quand il voit un vélo électrique, il dit à la personne, tiens, tu roules en vélo moteur. Et ça fait sourire, parce que c'est vrai que moi, je n'avais pas pensé non plus. C'est un petit peu ça quand même. La voiture électrique, c'est telle qu'on l'a réfléchie aujourd'hui, à mon avis, c'est une mauvaise solution. C'est une mauvaise solution pour deux raisons. La première, c'est que la batterie ne contient pas une quantité d'énergie intéressante. Prenez une voiture électrique telle que celle qui se vend à l'heure actuelle. Vous avez à peu près une tonne de batterie pour pouvoir faire vos 400 km. Prenez une voiture normale, les mêmes 400 km, vous les faites avec... 15 kilos de pétrole, donc 15 kilos contre une tonne, et le gros de l'énergie que vous dépensez, c'est bien déplacer la masse que vous avez sous les fesses. L'autre problème, c'est que la voiture, c'est un véritable tank. On est habitué à vouloir avoir un gros machin qui prend beaucoup de place. Des fois qu'on transporte grand-maman et l'oncle, on a besoin de 5 places. Des fois qu'on aille une fois dans sa vie en vacances à 500 km, ce serait bien d'avoir une voiture qui permet de le faire. Or, une voiture en Suisse, quand elle se déplace, elle fait en moyenne 5 km. Et 95% des déplacements sont en dessous de 80 km. Et on achète tous, mais moi aussi j'ai fait cette erreur-là, on achète tous quelque chose qui puisse un jour correspondre à ce dont on a besoin. Et du coup, on fait des consommations de malade avec ça. Donc la voiture électrique, elle a un sens uniquement le jour où l'être humain aura appris à conduire une voiture qui soit un truc petit, léger, fuselé. Alors évidemment, c'est clair que ça fait moins impressionnant sur la route qu'un gros 4x4 qui vous klaxonne ou qui fait des appels de phare sur l'autoroute.
En attendant, on va à pied et à vélo, notamment pour aller vous découvrir ce soir à Démont pour la conférence que vous donnez, les défis de l'énergie. Olivier de Surchère, merci d'être venu en direct. On rappelle que vous êtes docteur en sciences techniques de l'EPFL et conseiller en énergie. Vous avez un site internet que l'on mettra tout à l'heure sur la page de Format A3.
Bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée.